c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous et bienvenue dans Nos Adorés, l'émission qui répond aux questions des ados. Je suis Julie Sigel et aujourd'hui je reçois Aurélia Ruhlmann. Je pense qu'il est important, dans une émission qui répond aux questions des ados, de parler aussi des ados à particularité. Et pas seulement de l'ado qui crie, qui s'énerve et qui se fâche, mais aussi l'ado à handicap ou l'ado qui a une particularité. Et donc aujourd'hui, on a décidé avec Aurélia de parler de l'autisme. Elle va nous expliquer ce que c'est l'autisme, parce que c'est très large. Et dans un second temps, parce que c'est deux émissions, en fait, la première émission, on reçoit Aurélia, qui va nous parler de l'autisme, parce qu'elle est compétente en la matière. Et en deuxième lieu, on va recevoir Robin, qui est un adolescent de troisième, et qui, lui, est atteint d'un trouble du spectre autistique, et qui va nous parler de son quotidien. Donc voilà. Bienvenue, Aurélia.
Ben merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir. Alors du coup, Aurélia, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter un peu, nous parler de ton parcours très brièvement ?
Donc moi, je suis éducatrice spécialisée. Ça fait environ 10 ans que j'exerce dans le milieu de l'autisme.
D'accord.
J'ai accompagné enfants et adultes dans mon parcours. Voilà, j'ai d'abord fait auprès d'associations de parents. Et ensuite dans des établissements spécialisés. Et ça fait environ un an maintenant que je me suis lancée en libéral. Donc maintenant j'agis seule auprès des familles en fait. Je me rends à domicile auprès de familles qui ont pris contact avec moi. Ou alors j'interviens aussi dans des écoles pour faire une petite formation des AVS, pour les axer dans le parcours scolaire de l'enfant. Et aussi, je fais aussi parfois des petites sensibilisations à l'autisme dans les écoles et dans les classes.
C'est très intéressant, ouais. Parce que justement, je crois que c'est un peu la problématique, c'est qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, donc on se méfie. Et quelquefois, c'est ça qui peut créer un climat peu sain, finalement, pour l'enfant ou pour l'ado.
C'est ça, tout à fait. Et c'est grâce aux formations spécifiques sur l'autisme et des méthodes d'apprentissage... Et aussi connaître quelles sont les spécificités de ce trouble qui permettent de mieux accompagner ces personnes et de pouvoir les aider à apprendre comme les autres.
Ouais, voilà. Et à s'intégrer le mieux possible. Merci beaucoup Aurélia. On va commencer par la première rubrique.
Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique. Et vous, quel ado étiez-vous ?
Alors Aurélia, quel ado étais-tu ? Mais n'importe quoi. Quel ado étais-tu ?
Bah ça va être sympathique, je ne m'attendais pas à celle-ci. comment dire ? Au final, j'étais plutôt une ado qui était assez introvertie, je dirais, au niveau du caractère, mais extravertie au niveau du style.
Voilà. Ah je oui, pense d'accord, que tu étais visible.
Je pense que je me suis exprimée par mon style.
D'accord. Voilà. On t'a encore presque une ado. Hein.
Ouais.
Je tiens à le dire. Non, mais c'est un compliment. C'est un compliment. Alors, merci pour cela. Tu as grandi à Strasbourg ?
Pas du tout. J'ai grandi en Bourgogne.
Ah ouais, chouette. Très bien. Alors Aurélia, on va tout de suite commencer à parler du sujet du jour, donc qui est l'autisme. Est-ce que tu peux nous donner, alors je sais que c'est une question lourde et complexe, et qu'on pourrait faire une conférence de 2 heures dessus, même plus. Est-ce que tu pourrais nous donner les généralités qui concernent cette particularité, ce trouble neurodéveloppemental ?
Et alors déjà, je te remercie de parler de trouble neurodéveloppemental, parce que l'autisme a souvent été considéré comme une maladie psychique, et ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est déjà très bien que...
À la psychiatrie a fait beaucoup de mal aussi.
Voilà, exactement. Ouais. Donc déjà, ça c'est très bien. Donc on peut parler maintenant d'une condition neurodéveloppementale, et qui malheureusement ne se guérit pas. C'est pas comme une maladie peut se guérir, une condition neurodéveloppementale ne se guérit pas. Donc, en fait, depuis la sortie du DSM-5, qui sont les classifications américaines, on parle de troubles du spectre de l'autisme, de TSA, justement pour englober tous les types d'autisme qui peut exister.
D'accord.
Donc on peut aller du syndrome d'Asperger, qui est un autisme qu'on appelle de haut niveau.
Assez connu,
assez
hein, du
connu
coup.
Assez connu et assez... voilà, on commence à en entendre parler de plus en plus. Il y a les troubles envahissants du développement qui sont non spécifiés. Il y a les troubles désintégratifs de l'enfance et il y a toutes les formes d'autisme avec déficience intellectuelle associée, plus ou moins sévère.
D'accord.
Voilà. Donc, le trouble du spectre de l'autisme, ça se définit donc par des déficits persistants dans la communication et dans les interactions sociales. Ça, c'est un des premiers critères. Donc, ce déficit, il peut être plus ou moins important, mm-hmm. d'où ce terme de spectre. Et aussi, ce qu'on rapporte maintenant, c'est des comportements et des intérêts restreints et répétitifs.
D'accord.
Donc,
Des tocs, des choses comme ça ?
Il peut y avoir des tocs. Et après, c'est surtout au niveau des intérêts. On peut avoir une passion.
Des passions
ouais. qui, pour un type de choses particulières.
Un peu comme on avait vu dans le fameux film Rain Man.
Par exemple, oui.
Un peu ce genre.
Oui.
D'accord.
Ouais, et donc la sévérité de ces symptômes, elle peut être plus ou moins intense et du coup ça engendre la sévérité du TSA et de la condition de la personne.
Donc toi t'es obligé de t'adapter en fait à toutes ces particularités et à vraiment les méthodes que tu emploies sont j'imagine très différentes pour un autiste Asperger que pour un autiste
tout à fait
voilà oui. Avec déficience intellectuelle sévère.
Tout à fait. Mmh. Oui.
Donc c'est... très flexible dans ta
il faut,
pratique.
Oui.
Ouais, il faut.
Quelque chose qu'on peut rajouter aussi,
oui
c'est... Alors, ça ne fait pas partir des critères de diagnostic, mais c'est à prendre en compte dans les TSA et dans l'accompagnement de ces personnes, c'est les particularités sensorielles. Donc, elles n'en ont pas toutes, mais ça peut arriver une hyper ou hyposensibilité
oui.
au niveau des cinq sens.
D'accord, voilà. Oui. Donc, au bruit, au toucher.
Bruit, lumière.
Tu parles toucher. Des cinq sens, mais c'est vrai qu'on entend souvent parler du bruit, aussi des sensations des vêtements,
corporelles.
Même sur la peau, des choses comme ça.
Oui.
Un enfant qui n'a pas été diagnostiqué petit peut être diagnostiqué à l'adolescence.
Oui.
Et quels sont les signes alors que les parents doivent. Ou même l'adolescent peut-il se reconnaître dans ce qu'on va dire aujourd'hui, tu vois ? Est-ce qu'il peut se dire ah mince, peut-être que je suis concernée ? Mais vous ne l'êtes pas tous, hein, arrêtez, c'est bon.
Après, la période, comme on dit, la période de l'adolescence, c'est difficile qu'on soit autiste ou non. Donc,
exactement.
Mais, voilà. Donc, en fait...
les signes.
Les signes mm-hmm. de l'autisme. Donc, dans tout ce qui est communication et relations sociales, c'est vrai qu'à cette période de l'adolescence, c'est là où il y a le plus les copains, les sorties, les choses comme ça.
Et c'est quoi ? C'est des ados qui n'ont pas d'intérêt pour ça ?
Alors, ce n'est pas forcément l'intérêt, mais qui vont avoir des difficultés, de grosses difficultés à pouvoir rentrer en communication avec les autres, à répondre à des questions.
À comprendre les codes.
Comprendre les codes sociaux, à comprendre l'humour. Ou alors, quand ils vont pouvoir tenir une conversation, ils vont toujours parler d'un sujet favori, d'eux, et pas forcément pouvoir intégrer l'autre dans la conversation.
Alors attention, tous les ados qui ne parlent que d'eux n'ont pas de TSA. Hein.
Non.
Les parents, je tiens à le dire. Parce qu'ils sont un peu leur sujet favori quand même. Hein.
Oui.
Voilà. Et ils sont notre sujet favori aussi.
Oui. Et donc, voilà. Du coup, ils peuvent aussi, dans tout ce qui est conversation, utiliser un ton monocorde, un langage inhabituel, un langage plus soutenu
oui.
ou un langage...
plus châtié. Quoi.
Voilà. Mm-hmm. Exactement.
Très bien.
Et du coup, tout ça, tout ce qui est les codes sociaux, le contexte social, ils ne le comprennent pas. Et souvent... Ce qu'il y a, c'est le rejet des pères ou alors eux s'excluent eux-mêmes du groupe de pères parce qu'ils n'arrivent pas à entrer en communication ou à échanger avec eux. Donc, pour eux, le mieux, c'est se retrouver
seul. De se mettre en marge.
Voilà.
Pas évident. Est-ce que la plupart des adolescents atteints d'un trouble du spectre autistique sont scolarisés ?
Alors, ce qu'il faut savoir, comme on l'a dit dans Qu'est-ce que l'autisme ? C'est que... les adolescents avec autisme qui n'ont pas de déficience intellectuelle peuvent être scolarisés tout à fait,
mmh.
Soit avec une AVS ou non, suivant les besoins qu'il a au sein de l'école.
D'où l'intérêt d'une formation de ces AVS pour savoir exactement...
Exactement, comment
ouais.
comment accompagner.
C'est pas évident d'accompagner comme ça un jeune... tous les jours. Enfin, c'est un métier qui n'est pas valorisé, qui n'est pas valorisé pas pécuniairement non plus, d'ailleurs.
Non, mais je suis tout à fait d'accord.
Et bon, un vrai statut serait indispensable.
Un vrai statut.
Et une vraie formation.
Oui, parce que en fait, ça pourrait être tout à fait le rôle aussi des éducateurs spécialisés.
Par exemple.
Par exemple.
Ouais.
Ils pourraient rattacher ce type de métier à la branche
du
médico-social.
C'est une des promesses de campagne, d'ailleurs. Je ne citerai pas le, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les partis. Donc c'est une promesse de campagne, une AVS au moins par bien formée, en tout cas par école et par collège. Bon, par classe, pardon. Je dis n'importe quoi. Par classe.
Oui, certains enfants ont besoin d'AVS individuelle et pas mutualisée. Enfin, ça c'est un autre sujet.
Oui, mais
aussi.
Si déjà. Enfin, je veux dire, bon, mais... si on commence à progresser sur le sujet.
Oui, bien sûr.
Bon,
moi j'en veux toujours plus. Mais...
Oui, mais je suis plus âgée, moi, alors je prends des fois aussi ce qu'on me donne.
Oui.
Bon, donc on dit que les solutions proposées, outre la scolarisation en milieu classique avec AVS, en France, ne sont pas au top, les solutions
annexes. Alors, il y a d'autres,
annexes.
Les solutions annexes qui sont souvent pour les ados avec déficience intellectuelle, qui n'ont pas pu suivre une scolarité dite classique ou normale. Alors, on a d'autres établissements. Ils passent souvent par des instituts médico-éducatifs ou des IM Pro aussi, qui vont tendre vers un métier. Il y a aussi tout ce qui est CESAD, donc c'est des établissements avec des professionnels qui vont se rendre à domicile et faire le lien aussi avec le domicile et parfois l'école. Et ensuite, on a des établissements pour adultes. Mais dans ces établissements-là, déjà, il faut qu'ils soient spécialisés autisme. Et ça, ça commence à se développer.
Il y en a peu. Il y en a quelques-uns en région parisienne, d'après ce que j'ai pu
lire. Il y en a quelques-uns sur Strasbourg aussi.
Ah, d'accord.
Mais c'est pas... Il n'y a pas assez de place pour accueillir tout le monde.
C'est voilà. Pour ça
et, et de la bonne manière également.
Les parents fortunés se tournent parfois vers l'étranger. Hein.
Tout à fait.
Parce que c'est aussi une question d'argent. Voilà.
Oui.
Il ne faut pas le nier.
Pour revenir aussi aux ados sans déficience intellectuelle, certains où l'école devient trop difficile parce que trop de codes sociaux, trop de monde.
Sont déscolarisés.
Sont déscolarisés. Et
c'est là que tu interviens ?
Pas spécialement.
Ah pardon, d'accord.
Non, pas spécialement. Parfois, les parents font le choix du CNED.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais moi, la plupart du temps, je suis sollicitée pour les ados Asperger ou sans déficience intellectuelle. C'est plus pour justement apprendre les codes sociaux, apprendre à se faire des amis, comment rentrer en relation avec les autres, travailler beaucoup sur ses émotions, comment ressentir les émotions, comment détecter les émotions des autres.
Moi, je suis mimiques faciales,
voilà, exactement. Je vais être plus dans ce domaine-là.
Ouais. Donc le non-verbal, etc.
Etc.
Ouais, d'accord, je vois. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes méthodes ?
Alors moi j'ai été formée à ce qu'on appelle la BA.
Oui.
Donc je suis plus sur des techniques comportementalistes.
On a entendu dire que c'était un peu du dressage. Qu'est-ce que tu as à dire aux détracteurs de cette méthode ?
Alors,
rapidement, hein, parce qu'on n'est pas là pour condamner quoi que ce soit.
Oui, bien sûr. Bon, n'empêche que c'est une méthode, enfin, c'est pas vraiment une méthode, c'est une science du comportement.
Oui.
Qui a fait ses preuves aux États-Unis, qui est recommandée maintenant par les ARS pour tout ce qui est de l'enfance, pas encore dans le milieu adulte, parce qu'on n'a pas fait de test, forcément, donc on ne peut pas leur commander, il n'y a pas de notes.
Je vois.
Voilà. Après, moi, je dirais que dans l'école ordinaire, est-ce que nous, on n'a pas eu des bons points ?
Est-ce que c'est pas un peu du dressage de toute façon ?
Oui, voilà.
Hein ? Et bonjour
est-ce
à la
n'a pas eu des posters ? Est-ce qu'on n'a pas eu des autocollants ? Est-ce que les parents ont pas... Ah, t'as un bon bulletin. Bah tiens, je vais t'offrir un petit jouet. Enfin, voilà.
T'as un mauvais bulletin, je t'en mets une.
Enfin. Voilà. Ouais. Bon,
non, mais dans l'éducation positive, n'oublions pas.
Et dans la vie de tous les jours, est-ce que... Bon, moi, j'adore mon métier, mais après, je suis contente d'avoir mon salaire aussi. Est-ce que c'est pas ça
évidemment,
aussi enfin, voilà.
Non, mais c'est après, une excellente réponse. Mais je pense qu'il est important de dire aussi qu'on a conscience qu'il y a des critiques envers ces méthodes-là. Oui.
Et le but, c'est d'effacer, parce qu'on appelle ça des renforçateurs.
Oui.
Et le but, c'est petit à petit de les espacer et que l'activité en elle-même ou l'apprentissage en lui-même devienne assez renforçant pour la personne qui n'ait plus besoin de ce petit truc en plus pour faire. En fait, le petit truc en plus, il est là pour apporter de la motivation
oui.
et motiver un apprentissage.
Oui.
Et en fait, quand ils savent faire et qu'ils maîtrisent,
ils n'ont plus besoin
puisqu'ils
ça,
maîtrisent la chose. Voilà, on est là pour plus attirer vers l'activité et l'apprentissage.
Ouais,
voilà.
Tout à fait. Donc toi, l'ado atteint d'un trouble du spectre autistique, tu vas l'amener vers une autonomisation. Je savais que j'allais buter sur ce mot.
Alors, je commence dès le plus jeune âge, on va dire. Quand j'ai un suivi,
oui.
Ce que je conseillerais aux parents, c'est de commencer très tôt tout ce qui est les apprentissages de l'autonomie, à la fois personnelle.
Bien sûr.
Et aussi, après, dans tous les déplacements. Ça se fait ça quand ça va être les pré-ados. On va commencer à apprendre à se déplacer tout seul à la boulangerie, à aller demander du
d'accord.
pain, etc.
D'accord.
Ça, je parle plus pour des ados avec déficience. Enfin, moi, je suis plus avec des ados avec déficience.
Ouais.
Pour l'autonomisation, parce que les ados, on va dire, sans déficience intellectuelle, sont assez autonomes, on va dire, dans leurs déplacements, dans
eux,
leur
façon...
Eux,
c'est plus les émotions et
voilà,
les choses comme
c'est
ça.
Voilà, c'est plus vraiment les codes sociaux et les émotions.
D'accord.
Pour les adolescents avec déficience intellectuelle, il faut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on commence dès le plus jeune âge.
D'accord.
Voilà.
Et
je conseille aux parents...
Quel âge ?
Bah, dès qu'il y a le diagnostic, on commence. Là, j'ai un petit bout de 4 ans, bah, on apprend à s'habiller, quoi.
Mm-hmm.
Même si c'est compliqué, etc. Mais c'est plus long qu'un enfant lambda.
Oui.
On y arrive petit à petit. On apprend à s'habiller tout seul, à se laver les mains.
Donc, des exercices à faire, j'imagine, tous les jours,
dans
les parents
la vie,
avec l'enfant.
Oui, tout à fait.
Et avec l'ado, quel type d'exercice tu conseilles aux parents, par exemple?
Alors,
justement, de le petit déplacement vers la boulangerie, payer, peut-être, des choses comme ça.
Bah, alors après, par exemple, si pour payer, on va d'abord faire du travail, ce que je dis, du travail à table, c'est-à-dire reconnaître qu'est-ce que c'est que l'argent, reconnaître les pièces de monnaie.
Bien sûr.
Il faut savoir compter aussi pour pouvoir aller acheter quelque chose. Donc, il y a plein de prérequis, en fait.
Quoique avec le sans contact, on est bien.
Oui. Faut laisser la carte à l'ado.
C'est ça. C'est vrai.
Mais voilà, on a plein de petits prérequis. Et ensuite, moi je passe beaucoup par le visuel, on peut prendre le plan et dessiner sur le plan
d'accord.
le trajet. Il va falloir répéter le trajet plusieurs fois aussi avec la personne pour qu'elle l'emmagasine aussi.
Toi, tu accompagnes en extérieur aussi.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Suivant les objectifs qu'il y a pour l'enfant.
Mm-hmm. Très bien.
Donc, quand je rencontre l'enfant, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec lui. C'est en fonction de l'évaluation, de ce qu'il a besoin, des attentes des parents, etc. Et ensuite, on met en place des objectifs.
Et quelle est la fréquence de ces rencontres avec toi ?
Alors, ça dépend, malheureusement, mes interventions ont un coût qui ne sont pas forcément toujours prises en compte par les allocations de la MDPH ou de la CAF.
D'accord.
Donc
c'est sur un budget... personnel.
Voilà,
quoi, donc,
tout à oui. fait. Après,
il y a des disparités,
certaines familles utilisent les allocations qu'ils ont pour pouvoir me
pour
payer.
Ça, mm-hmm.
Elles aimeraient faire plus, mais elles n'ont pas forcément
les
moyens financiers.
Bien,
donc, il y a des personnes qui aimeraient bien que je vienne tous les jours. Il y a d'autres
oui.
personnes qui aimeraient bien que je vienne deux fois par semaine. D'autres, c'est le cas. Certains, c'est qu'une fois. Des
d'accord.
fois, c'est deux heures. Tout dépend aussi des besoins et des moyens.
Oui,
malheureusement,
c'est le nerf de la guerre un peu dans toutes ces familles, hein,
voilà.
où souvent un des deux parents est d'ailleurs contraint de
souvent de la s'arrêter
mère, hein, faut pas se le cacher, voilà, est contraint de s'arrêter de travailler.
Mais j'ai un exemple où c'est le papa.
Un exemple
oui.
où c'est le papa. Ben, on le salue, ce papa.
Voilà.
Bravo. Après, ça dépend, oui, des salaires, hein, comme
oui.
il y a un petit peu des disparités salariales entre les hommes et les femmes. Enfin, bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc, dans la série Netflix Atypical, qui est une série qui met le focus sur l'adolescence d'un autiste Asperger et qui est extrêmement drôle, à la fois bien écrite, bien faite, enfin... Elle a beaucoup de succès auprès des ados. J'ai le sentiment que ce genre de série ou ce genre d'initiative permet de créer un peu... de faire avancer les mentalités et le regard qu'on porte au handicap. Est-ce que tu as le sentiment, toi, que ça progresse ces derniers temps, le regard qu'on porte sur l'autisme notamment ?
Oui, moi je trouve que ça commence à évoluer. Après, par rapport aux familles auxquelles je rencontre, forcément ça ne va jamais assez vite.
Oui,
bien sûr. Après, c'est bien d'avoir ce type de série. Comme on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que on montre toujours le côté autisme de haut niveau
c'est
ou
ça.
Au potentiel.
Bien sûr.
Donc oui, après, c'est avec des situations un petit peu comiques, tout ça aide à se rendre compte de ces choses-là. Mais moi, je dirais, pour faire bouger les mentalités, voilà, la sensibilisation dès le plus jeune âge, je trouve que c'est un bon moyen. Moi qui ai fait des sensibilisations à l'école, dans une classe de CE1.
Donc, est-ce que c'est toujours des classes où il y a un enfant concerné?
Là, j'en ai fait une. Là, en fait, c'était un petit garçon que j'accompagne. Et justement, c'était très compliqué dans la cour de récré pour jouer avec les autres. Et bon, il n'arrivait pas du tout à s'intégrer dans les jeux et les autres n'allaient pas le chercher non plus. Donc j'ai dit, si on commence un travail à « je vais chez les autres », j'ai dit, il ne faut pas qu'il se fasse, excusez-moi du terme, rembarrer par les camarades de classe. Donc on a décidé de faire une petite sensibilisation. En lien avec la maîtresse, avec des petits jeux sur ce que c'était. Et en fait, après, ça a été génial. Ils sont venus le chercher et les jeux se sont faits comme ça, quoi. Alors, des fois, comme chaque enfant, hein, ça marche pas
ça
tous les coups.
Ça colle ou ça colle pas.
Ça colle pas. Mais il y a eu, du coup, cette démarche des autres enfants.
Le rejet ne viendrait plus du handicap, en tout cas.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est ce dont on parlera dans la seconde émission avec notre témoin Robin et donc son camarade Marco qu'il a un peu pris sous son aile et qui a réussi, je suis en train de spoiler, c'est bête, mais enfin je le dis quand même, qui a réussi à transformer l'essai, c'est-à-dire que de nombreux camarades du coup ont changé un petit peu leur regard sur Robin, ce qui est plutôt beau. Donc quelles sont les clés d'après toi pour une société plus inclusive? Et on parle des ados, mais on parle aussi des adultes. Combien j'ai vu d'adultes au restaurant qui jugeaient un enfant qui ne savait pas se tenir assis ou qui ne savait pas, je ne sais pas, qui était avec un casque anti-bruit ou que sais-je. Enfin, on a vu même des vidéos comme ça. Il y a même des vidéos prank sur YouTube où on teste la réaction des adultes face à un enfant autiste dans un restaurant. Une fois qu'ils le savent, c'est sûr qu'ils ont un petit peu honte. Donc ne jamais juger une situation au restaurant ou même au centre commercial, un enfant qui se roule par terre est peut-être un enfant mal éduqué, peut-être, mais peut-être aussi un enfant à particularité. Il faut y penser.
Oui.
Et soutenir les parents. Parce que c'est pas facile. Donc je te demandais justement, quelle est la clé pour une société plus inclusive d'après toi?
On en entend parler de l'inclusion à l'école, etc.
Oui, c'est beau,
etc.
C'est des jolis termes.
Après, pour moi, les clés, c'est les changements de mentalité des gens. Et pour ça, c'est aux personnes elles-mêmes de se changer.
Délicat. Parce que je vois, par exemple, on parlait aussi en préparant cette émission, des frères et des sœurs de ces enfants un peu extraordinaires qui en souffrent souvent. Et on le voit d'ailleurs dans la série Atypical. On voit bien petite sœur d'ailleurs, je crois. Oui, la petite sœur, parce qu'ils n'ont pas une très grande différence d'âge. Mais on voit en quoi son enfance a été différente parce que justement, elle avait un frère qui pouvait potentiellement créer des problèmes et faire des vagues. À un âge, on n'a pas nécessairement envie de se faire remarquer. Oui. Donc, comment c'est vécu ça dans les familles?
Mais ça, la plupart du temps, c'est vrai que pour les fratries, c'est assez compliqué.
Oui.
Souvent, eux aussi ont un suivi, soit chez un psychologue, pour pouvoir parler de tout ça. Après, souvent, ce que j'ai vu, c'est aussi des frères et des sœurs beaucoup plus matures que leur âge.
Leur dépend, effectivement.
Voilà, oui.
Pas trop le choix. Parce que les parents sont mobilisés autour de cet enfant, souvent, et on est un peu laissé pour compte, quelque part.
C'est ça.
Mais enfin, on va pas faire culpabiliser encore plus les parents qui, déjà, j'imagine, en ont gros sur la patate. Par contre, j'ai aussi une maman, en préparant cette émission, qui m'a dit « Dès lors que mon fils a été diagnostiqué, je n'ai plus été invitée. » C'est-à-dire qu'on n'invitait plus mon enfant. Alors que par ailleurs, avant, il était invité, l'enfant, ça se passait plutôt correctement, après avec des débordements quelquefois, mais qui était plutôt bien géré. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces amis qui tout à coup ont leurs amis, qui ont un enfant qui est diagnostiqué et qui ferment la porte? C'est pourquoi? Quelle est cette peur?
Je pense qu'il faudrait leur poser la question, parce que c'est vrai que c'est diagnostic égale aussi étiquette. Et moi, j'ai beaucoup de familles aussi qui me disent, mais en fait, des fois, on n'ose pas dire ce qui se passe ou dire.
Donc, faut parler. C'était ma prochaine question. Donc, faut le dire, d'après toi?
Pour moi, oui.
Ouais.
Même si, pour moi, il faut le dire parce que ça, quand les gens sont intelligents en face, ça permet de comprendre certains comportements. Ça permet de pouvoir expliquer ce qui se passe.
Oui.
J'ai un petit exemple. J'ai un papa qui a carrément fabriqué. Alors, il me dit, oui, peut-être que j'affiche mon fils, mais il a fabriqué un gilet. Et derrière, c'est écrit, oui, je vous trouve bizarre et je suis autiste. Ouais. Et moi, je suis autiste et moi aussi, je vous trouve bizarre.
Et moi aussi, je vous trouve bizarre. Voilà. Exactement.
Ouais. Exactement. Donc, c'est... Et du coup, il y a beaucoup plus de gens qui vont vers lui et qui vont parler du handicap. Et il peut justement parler de ce handicap aux personnes qu'il rencontre.
Ah oui, ça peut être, ça peut être une astuce. Ben, merci Aurélia, on est déjà arrivé au terme de, de notre discussion. Et je te remercie encore une fois parce que c'était très clair. Je pense qu'on a compris plein de choses. Comment peut-on te contacter ?
Alors, vous pouvez chercher sur Internet Éducautisme Alsace. Vous tomberez sur mon site Internet.
Ouais.
J'ai aussi sur les réseaux sociaux une page professionnelle Facebook. Avec,
qu'on mettra en dessous du podcast.
Aurélia Ruhlmann Pro. Et une page Éducautisme sur une page Facebook aussi. Où, sur mon site, vous
Aurélia,
avez tous
elle
les...
présente partout. Elle est très dynamique. Elle communique aussi. Des fois, tu partages des articles ou des choses qui sont intéressantes. Oui. Et merci encore pour ton intervention.
Ben, merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,